Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, nous allons voir cette année Grotjac, qui s'écrit Grolé-Jac, mais que l'on prononce Grotjac à Sarladé. Alors, il y a quelques jours, on inaugurait le nouveau pont de Grotjac qui enjambe la Dordogne dans la région. Et comme je disais à l'instant, que l'on prononce Grotjac et non pas Grolé-Jac comme ça s'écrit. Et j'ai sous les yeux l'ouvrage de Madame Mireille Picaudou Arpaillange. Je ne sais pas si elle est apparentée à Pierre Arpaillange, originaire de Carlu, qui fut ministre de la Justice de 1988 à 1990, puis premier président de la Cour des comptes, il s'éteindra en 2017 au Canet dans les Alpes-Maritimes. Alors, pour en revenir à ce livre, je dirais qu'il est édité par les éditions Terre d'Histoire en 2019. Alors, un département de City Édition, alors l'illustration de la couverture est de Sur Terre Stock Studio City. Voilà, alors il est composé de plusieurs chapitres, et voilà ce que nous dit la quatrième de couverture, bien sûr, qui est toujours très intéressante, comme d'habitude. Alors Lucille, c'est notre héroïne, mène une vie tranquille à Bordeaux jusqu'au jour où le décès de sa mère bouleverse tout. En triant des papiers, la jeune femme découvre une vieille photographie qu'elle n'a jamais vue avec une mention manuscrite de la famille de Grotjac. S'agirait-il de parents éloignés? Pourquoi n'en a-t-elle jamais entendu parler? Lucille décide de lever le voile sur la véritable histoire de sa famille. Une quête qui l'a conduit dans le Périgord sur les traces d'un homme du village de Grotjac, parti comme militaire en Algérie à la fin du XIXe siècle. Ah ouais. Avec passion, la jeune femme dévoile tout un pan de son histoire familiale, sans se douter qu'un terrible secret, enfoui depuis des générations, est prêt à refaire surface. Alors, il nous est dit, comment je pourrais dire, écrit en rouge, je connais assez bien les coutumes d'ici pour savoir que les secrets sont enfouis, mais qu'ils ne meurent jamais et peuvent ressortir n'importe quand. Alors toutes les familles ont des secrets, certaines plus que d'autres. Alors pour l'autrice de ce livre, Mireille Picaudou Arpaillange, vit à Toulouse, et après avoir été enseignante en Algérie et au Sénégal, elle se consacre désormais à l'écriture et à publier des romans qui font la part belle au Périgord, son territoire d'origine, et effectivement, elle connaît bien, tout au moins, elle connaît bien Grotjac. Alors donc, elle sera, après avoir vu ces photos, elle sera à Grotjac, qu'elle découvre en hiver. Voilà ce qu'elle nous dit du pont de Grotjac. Alors, pont de Grotjac, on a inauguré il y a quelques jours, comme je disais tout à l'heure, le nouveau pont, et quand elle arrive, il y a évidemment encore l'ancien pont. Alors je m'engage sur le pont de béton dont les rambardes m'empêchent de voir les eaux de la Dordogne, sans doute abondantes en cette saison. Et aussitôt j'aperçois l'hôtel du port où j'ai réservé une chambre. Je craignais de ne trouver aucun logement en dehors de la saison touristique à une période où les vacanciers se dirigent plutôt vers la montagne enneigée. Mais l'hôtel-restaurant du port fonctionne toute l'année. Je ne sais pas encore comment je vais procéder pour retrouver les traces supposées de cette partie de la famille. Après le déjeuner, je m'habille chaudement, car le brouillard s'effiloche sans vraiment se dissiper, et je me dirige vers le pont. J'ai senti tout à l'heure au téléphone l'inquiétude de Stéphane. Alors Stéphane, c'est son compagnon à Bordeaux. Mais je suis inexplicablement sereine, j'ai l'impression de respirer. Je n'ai jamais fait ça, partir ainsi seul dans un endroit inconnu. C'est sûr, Stéphane doit me trouver étrange, mon regard plonge vers des tourbillons d'eau noire qui s'enroulent autour des piles. Ce lieu doit être plaisant sous le soleil, avec des collines boisées, le ruban de la rivière qui glisse dans les prairies et le petit château du village qui domine le paysage. Pour l'heure, la pierre jaune des constructions a du mal à émerger de la brume et le trottoir du pont est si étroit que les camions qui circulent me frôlent au passage. Je me réfugie dans une ruelle qui accède au cœur du vieux village. Quelques maisons s'étagent au pied de la petite église. Et à tout hasard, je pénètre dans le cimetière et déambule entre les tombes sans bien savoir ce que je cherche. Sa photo de mariage, mon enceinte Anastasie, pose près d'un homme, sans doute son mari. Était-ce elle qui appartenait à la famille de Grotjac? J'ignore quel était son nom de jeune fille. Maman ne me l'a pas révélé dans son cahier. Cela m'aurait été bien utile. qui pourrait encore se souvenir de ce mariage qui remonte à la fin du 19e siècle. Ce qui est pour sûr, c'est que ce n'était pas une union banale. Pourquoi aussi peu d'invités sur la photo et une mariée seule? Un veuf qui se remariait avec une toute jeune fille orpheline. Cela pouvait avoir laissé des traces dans la mémoire collective de ceux qui n'ont jamais quitté leur village d'une génération à l'autre. Alors elle va, bien sûr, elle va quand même faire des recherches et elle va aller à la mairie qui est ouverte l'après-midi. Voilà ce qu'elle va dire à la secrétaire de mairie. « Je fais des recherches généalogiques sur ma famille, mais je ne dispose pas d'informations précises, juste une vieille photo. » Dans le coup d'œil rapide qu'elle me lance par-dessus son écran d'ordinateur, se lisent l'incompréhension et une certaine impatience. « Il y a des gens qui ont du temps à perdre, doit-elle se dire. Est-il de tenter de lui expliquer que remonter le temps pour moi est une façon de supporter le présent. L'homme qui attend son tour à ces derniers mois intervient avant que la secrétaire ne m'ait répondu. Le plus simple, c'est que vous alliez à la maison de retraite de Dôme. Il y a quelques vieux de la commune qui y sont. » Alors bien sûr, elle va les remercier tous les deux. Et puis elle va continuer un petit peu son périple à Grand-Jacques. Et puis elle va aller bien sûr à la maison de retraite à Dôme. Et puis donc elle rencontre quelques personnes âgées qui ne lui sont pas d'un très grand secours. Il est vrai que les secrets de famille sont bien gardés. Puis dans un chapitre intitulé « Aimer », on va découvrir l'Algérie à la fin du 19e siècle, plus exactement Sétif, ville proche de la frontière tunisienne, où les hivers sont froids. Sétif est actuellement une importante ville kabyle algérienne, située à plus de 1000 mètres d'altitude. Annaba, ancienne Bonne, ville où j'ai eu quelques relations amicales par le passé, est à quand même plus de 200 km. Alors, pour en revenir à notre soldat, le service militaire de l'époque était de 5 ans. Il y aura la lutte contre les criquets, le vent de sable, mais aussi quelques échauffourées. Et il va rencontrer Dia, une kabyle dont le père travaille pour l'armée française, mais disparaîtra rapidement. Des discussions ont lieu au sujet de la présence française. Voilà, bien sûr, un peu le chapitre. Cela fait maintenant 2 jours que nous marchons à travers cette plaine que les gens ici appellent la Mitidja. Nous avons quitté Alger en prenant la direction du Levant. Le gars qui se trouve à côté de moi dans la colonne connaît tout de cette terre. Il a rempilé dans l'armée parce que quand il est rentré en France après son service militaire qu'il avait fait ici, sa promise n'avait pas attendu. Ses parents étaient morts et il n'avait plus rien à faire là-bas. On va prendre la route impériale pour aller à Sétif, m'a-t-il confié à voix basse. Enfin, la route nationale 5, parce que depuis 2 ans, on ne peut plus l'appeler autrement. Alors, 2 ans après le retour de la République, toute allusion au tyran Napoléon III à ses œuvres est interdite. Mais Charles Barthès, son compagnon aveyronnais, a connu la dernière visite de l'empereur en Algérie. Il aime raconter, ça nous distrait tous les deux. Voilà. Alors, ils vont continuer leur progression, et puis on s'habitue à tout. Je souffre moins de la chaleur et de la marche. Barthès, donc son copain, me dit que je m'habitue et m'a expliqué que nous contournions par le sud la montagne de Djurdjura, et d'après lui, autant de neige l'hiver que les Pyrénées. Je suis toujours aussi étonné, je croyais que dans nos colonies il faisait chaud et sec, mais cela me conforte sans que je pensais rien de tel que de sortir de son coin de pays pour apprendre des choses. J'ai eu mes 21 ans, je savais que j'étais sur la liste des recensés qui pouvaient partir pour le service militaire. Par chance, la durée vient d'être réduite à 5 ans par la République. Ensuite, mon avenir était entre les mains du hasard. Si je tirais un bon numéro, je ne partirais pas. Si c'était un mauvais, il va tirer un mauvais numéro et il va partir au service militaire qui quand même était de 5 ans à l'époque. Voilà. Et bien sûr, il va arriver au cantonnement et il va continuer, son cahier. Me parviennent quelques rares bruits étouffés, comme si Sétif était couvert d'un édredon de plumes. Ça fait maintenant 4 jours que la neige a fait son apparition. Comme l'avait prévu Barthès, l'eau des fontaines est gelée, le soleil d'après-midi ne parvient pas à triompher du froid. Comme d'habitude, rien n'entame la bonne humeur de mon camarade, et quand je lui fais part de ma nostalgie du Cantou, de la maison familiale et Mourabou, tu le retrouveras ton Cantou, va pour le moment, tu es à Sétif, regarde comme la ville est belle, encore plus belle, encore plus blanche qu'Alger, la blanche. Voilà, alors donc, bien sûr, il y a la cause des casernes, la végétation couverte d'une bonne couche de neige figée par le gel. Malgré le froid, je reste à admirer cette perfection encore intacte à cette heure matinale, car mon attention est attirée par un bruit du côté de la fontaine des abreuvoirs, des coups répétés. Quelqu'un essaie de casser la glace. Alors c'est une toute jeune fille qui parvient à briser la couche d'eau gelée en surface avec un pic métallique avant de remplir un seau et de disparaître. Quand plus tard je repenserai à elle, j'aurai la vision d'une boucle d'oreille battant une de ses hautes pommettes au rythme des coups donnés sur la glace, une grosse natte de ses cheveux noirs frisés, prisonnière d'un ruban de couleur tissé. Voilà, alors donc il va rencontrer bien sûr cette jeune fille d'une façon un peu qui n'est pas trop banale, mais il va y avoir bien sûr entre eux des discussions sur comment je prends la présence française en Algérie. Voilà, alors, parce qu'ils ont dit, tu vois bien que tu les embarrasses, répliqua Barthès, quand le calife, alors le calife est un autre personnage important de ce roman, on l'appelle le calife, parce qu'il parle très bien, l'arabe. Le calife qui lui traduit les propos, comment veux-tu qu'ils aient confiance en nous? N'empêche que j'ai raison, insiste le calife. Ça se passait mieux quand il n'y avait pas beaucoup de colons. Oui, mais enfin, les soldats, ils n'ont pas fait que de bonnes choses, je crois. Barthès et le calife sont tournés vers moi, surpris de ma remarque, quand en général, je n'interviens pas dans ce type de conversation. Et bien fort, donc c'est le nom de notre gros Jacquois, tu commences à t'intéresser à ce pays. Le calife poursuit, je suis d'accord, il y a des chefs qui ont fait des saloperies. Bujou et sa politique de la terre brûlée, et Cavaignac, avec ses enfumades, il tuait des villages entiers, réfugiés dans les grottes et les enfumant comme des putois dans leurs terriers. Tout le monde mourait asphyxié, femmes, enfants. Comment peut-on faire des choses pareilles? Et je réagis au nom évoqué par le calife Cavaignac. Pas loin de chez moi, dans la ville de Gourdon, une rue porte le nom de Cavaignac. Ben, ce doit être son père, précise Barthès, très au fait de la politique, il était député. Voilà, donc il va rencontrer donc de loin cette jeune fille, il va y avoir, pas mal de discussions, et puis ben, les nuits sont quand même fraîches, recroquevillées sous ma couverture, le sommeil me fuit toujours, et brutalement une image chasse toutes les autres, celle de la jeune indigène qui cassait la glace de l'abreuvoir, je ne me souviens pas des traits de son visage, seulement de sa boucle d'oreille captant les premiers rayons du soleil et sa chevelure nattée. Mais je suis certain que ça suffirait pour que je la reconnaisse. Que faisait-elle dans la cour de la caserne? Elle en fait partie du personnel indigène rattaché à la cavalerie, car elle est entrée dans les écuries avec son seau d'eau. C'est surprenant, je n'ai jamais vu jusqu'ici de femme dans la cour des casernes. Peut-être que si je me rendais demain matin à l'abreuvoir des chevaux, je la verrais occupée à la même tâche. Mais à quoi ça m'avancerait-il d'ailleurs? Elle ne doit même pas parler français. Ah, c'est une supposition. Donc, comme on l'a dit, pour revenir à nos soldats, bon, le service militaire est de 5 ans, il y aura bien sûr quelques péripéties. Et puis, donc, comme on l'a dit, il va rencontrer Tia, cette Kabyle. Alors, rapidement, comme on l'a dit, discussions ont lieu au sujet de la présence française, mais pour aimer une seule vision compte, celle de Dia, cassant la glace. Alors, à la fin de son service, va l'amener en France. Ils vont se rencontrer, bien évidemment, cela ne peut pas être autrement, et ils vont se retrouver, comme je disais, en France, à Groljac. Voilà. Mais ça sera, je crois, pour la seconde partie de ce... cet ouvrage. Et en attendant, ben, je vous dis à la semaine prochaine et couvrez-vous parce qu'il ne fait pas très très chaud. Au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.